Alors, nous avons déjà pas mal parlé de l'Église persécutée ce matin, et j'ai été confronté un petit peu à une situation un peu bizarre. On a vu pas mal de vidéos, deux ou trois, avec des témoignages, et je me suis dit, un message après ça, à quoi ça peut bien servir ? Quand on voit le témoignage déjà des personnes qui sont persécutées, comment moi, qui ne suis pas persécuté, ou si peu, je vais pouvoir parler de cela. Je vais pouvoir me pencher sur le problème de la persécution, du pardon, en plus. C'était vraiment un problème difficile à résoudre pour moi. Déjà, le fait d'essayer de trouver une introduction à un tel message me posait pas mal de problèmes. Alors je me suis dit, introduisons par la parole de personnes qui connaissent ce genre de situation. Alors justement, j'avais lu dans Portes Ouvertes une petite étude du président, du directeur de Portes Ouvertes, Michel Varton. Et donc, je vais vous lire tout simplement en introduction ce qu'il nous dit à ce sujet-là. Et j'ai trouvé que c'était très pertinent. Cherchez la cause de tous les conflits de ce monde, et à la base, vous trouverez un problème de pardon. Quand les relations sont brisées au sein de la famille, entre voisins, entre ethnies, religions et pays, à la racine, vous trouverez une raison commune. C'est à cause de ce que vous m'avez fait il y a tant d'années. Le conflit perdure parce qu'il n'y a pas eu de pardon. Ces problèmes sont parfois anciens. Ils peuvent même remonter à plusieurs siècles. Prenez par exemple les difficultés entre catholiques et protestants en Irlande du Nord, par exemple, ou bien très récents aussi, comme les cas de conflits familiales. Mais à chaque fois, sans pardon, il ne peut pas y avoir de guérison et le mal persiste de génération en génération chez l'agresseur, comme d'ailleurs chez la victime. Pour les chrétiens, le pardon est possible parce que nous avons été pardonnés en premier lieu par Dieu lui-même. L'exemple nous est donné par Jésus qui, alors que les soldats avaient planté des clous dans ses poignets, a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Gladys Staines était missionnaire australienne en Inde. Son mari et ses deux fils ont été brûlés vifs par des hindous extrémistes. Quand Gladys a publiquement pardonné aux assassins de sa famille, le journal Times of India a écrit « Cet acte époustouflant de miséricorde a certainement converti plus de gens à sa religion que des dizaines d'années d'activités missionnaires agressives. » Alors vous pensez bien que je n'aurais pas pu trouver une introduction plus parlante que cela. Alors on a déjà parlé, on a déjà écouté, on a déjà entendu ce matin, et nous savons que le thème central du dimanche de l'Église persécutée, c'est le pardon. En effet, et je le pense profondément, le pardon est sans doute le plus fort témoignage que l'Église persécutée peut nous amener à nous, pays d'Europe qui ne sommes pas persécutés. Et afin d'illustrer ce thème, j'aimerais que nous puissions tourner dans nos Bibles, dans Romains 12, et nous allons lire du verset 14 au verset 21. Romains 12, versets 14 à 21. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bénissez ceux qui vous persécutent, et bénissez et ne maudissez pas. » Alors, mon habitude est toujours de replacer un petit peu le texte dans le contexte. Et donc, si nous replaçons ce passage dans son contexte, il s'intègre évidemment au chapitre 12, et ce chapitre a pour thème principal le comportement du chrétien conforme à la justice de Dieu. Le chapitre 12 commence par le passage bien connu « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Si Dieu peut nous demander de lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, c'est que lui, bien avant nous, a payé le prix afin que nous puissions être rétablis dans notre relation spirituelle avec lui. C'est pour cela que l'offrande de nos corps doit être perçue comme un culte raisonnable. En effet, au vu de ce que Dieu a fait pour nous, nous n'avons pas d'autres alternatives que de nous donner totalement à Dieu. Alors, un point d'arrêt, évidemment, s'impose à ce niveau-là. Quand nous avons été sauvés par Dieu, est-ce que nous lui avons donné notre corps, notre vie entière, comme un sacrifice vivant, un culte raisonnable? Ou est-ce que nous avons gardé, peut-être, certains recoins de notre être que nous voulons garder pour nous tout seuls? Nous sommes très doués pour cela. Alors il y a des chrétiens qui vous disent « Moi, j'ai donné mon cœur à Jésus tout entier. » Bravo! Mais ça, ce sont des paroles. Quand il s'agit d'être sur le terrain comme les églises persécutées le sont, à ce moment-là, les paroles doivent être traduites en actes. Et c'est à ce moment-là qu'on sait si on a réellement donné notre vie à Jésus ou non. Parce que là, le prix à payer, ce ne sont pas quelques paroles, ce ne sont pas quelques tirades devant le pupitre, mais c'est notre vie qui est en jeu. Et à ce moment-là, tout change. Et on se sent certainement beaucoup plus concerné par les versets que nous venons de lire. Ensuite, du verset 9 au verset 21, Paul nous rappelle quelles doivent être nos relations avec les autres en tant que chrétiens pardonnés et rétablis dans une relation avec Dieu. Et donc, le verset 14 est notre thème central ce matin. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. On a entendu brièvement frère André, dans son introduction, dire « Je suis chrétien » uniquement parce que Dieu m'a pardonné, et pas pour autre chose. Si Dieu ne nous avait pas pardonné, eh bien nous ne serions pas là ce matin. Et les églises d'Asie, d'Afrique, non plus. Alors la question qu'on peut se poser est assez simple en fait. Pourquoi devrais-je pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal? Faut être direct dans la vie. Je pense que tous, tant que nous sommes ici, chrétiens ou non d'ailleurs, nous nous sommes posés cette question tôt ou tard. La différence, c'est que le chrétien, en général, a une manière de répondre quelque peu en désaccord avec la mode ambiante actuelle. Mais alors pourquoi? Pourquoi Dieu nous demande-t-il de pardonner même à notre pire ennemi? N'est-il pas légitime d'avoir de la rancœur envers ceux qui nous font du mal? Et n'est-il pas normal de nous défendre lorsqu'on nous agresse? C'est des questions, certainement, qui viennent à notre esprit quand nous sommes dans la fournaise de l'épreuve, quand nous avons des personnes qui nous agresse ou qui nous persécute d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. » D'autres passages parlent de ce genre de situation. Nous pouvons lire aussi dans Éphésiens 1, 7 à 8. Éphésiens 7 à 8. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Alors, toutes les questions que nous venons de nous poser, pourquoi devrais-je pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal? Nous avons un petit peu la réponse dans ce genre de verset. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, en Christ donc, Dieu nous a pardonné. Et ça, ce n'est pas juste un sentiment passager, c'est un engagement permanent de Dieu envers nous. Dieu en Christ a eu le désir d'être réconcilié avec nous et c'est lui qui a tout fait. Alors il y a certaines personnes qui pourraient dire « Ah oui, mais moi j'ai accepté. Ah non, moi j'ai fait des bonnes œuvres. Je me suis bien conduit. » En lui, nous avons été pardonnés. Et seulement en lui. Nous n'avons rien à voir dans cette histoire. C'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui prend l'initiative du pardon, de notre pardon. Parce que n'oublions pas que nous sommes des hommes comme les autres, chrétiens peut-être, mais chrétiens pardonnés. Le péché ne nous est pas étranger. Et si nous pouvons maintenant pardonner aux autres, c'est parce que nous avons été pardonnés bien avant par Dieu. Nous avons le pardon des péchés. Dans ce verset, le terme grec « aphésis » signifie que Dieu nous sépare de nos péchés. Quand Dieu pardonne, il n'est pas comme nous, heureusement. Et il ne garde rien qui puisse nous accuser ultérieurement. Il oublie le péché, il efface le péché. Ésaïe 1, 18 nous dit « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Un autre passage que j'ai relevé dans Michée 7, 19 nous dit « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Le Seigneur pardonne et il oublie. Est-ce qu'on est capable de faire la même chose? On en parlera tout à l'heure. Dans le verset, il nous dit « Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. » Heureusement, et on en a déjà parlé un petit peu, le pardon de Dieu ne dépend pas de nos qualités, mais de la richesse de la grâce de Dieu. Heureusement qu'il ne dépend pas de nos qualités. Parce que moi, j'ai beau chercher dans ma vie, je ne trouve pas beaucoup de qualités. Alors, je m'en fabrique un petit peu de temps en temps, bien entendu. Mais les seules qualités que je trouve dans ma vie, c'est celles que Jésus a portées en moi. Et quand je me rappelle comment j'étais avant ma conversion, alors là, je sursaute, j'ai peur un petit peu, je me dis, heureusement que Jésus est passé par là. La richesse de la grâce de Dieu pour nous est immense et il l'a répandue abondamment sur nous. Et le passage poursuit en disant « en toute sagesse et intelligence ». En toute sagesse et intelligence, Dieu nous offre en plus du pardon entier et en plus il nous remplit de sagesse et d'intelligence pour que nous puissions comprendre spirituellement et grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement le pardon est entier et gratuit, mais le Seigneur ne nous abandonne pas après. Le Seigneur nous remplit de sagesse et d'intelligence. Le Seigneur veut que nous croissions, comme Pierre dit, que nous croissions dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. La conversion n'est pas le début, n'est pas la fin, mais le début de la vie chrétienne. Il nous reste toute notre vie à vivre pour le Seigneur, jusqu'à notre mort, en toute sagesse et intelligence. Est-ce que nous mettons en action cette sagesse et cette intelligence que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a offerte, pour justement connaître de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ? Donc en un mot, en résumé, pour pardonner, il faut soi-même être pardonné. Et nous pouvons donc maintenant comprendre pourquoi les chrétiens ont une réponse différente face à la persécution et au pardon. Alors une question s'impose ce matin: êtes-vous pardonné par Dieu? Avez-vous accepté ce pardon inconditionnel qui fait de vous des enfants de Dieu? Est-ce que vous avez accepté de suivre Jésus? Est-ce que vous êtes adopté? Parce que sinon, il va vous être extrêmement difficile de pardonner. Je dirais même, ça va vous être impossible. Parce que le pardon n'est pas une qualité très humaine. Quand nous lisons le témoignage des chrétiens persécutés qui ont pardonné à leur bourreau, nous pouvons nous poser des questions essentielles pour notre vie. Parce que nous parlons de l'Église persécutée, mais qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, l'Église persécutée? Que peut nous apporter son témoignage à sa place, à la place de ce chrétien persécuté? Aurais-je, moi, eu le courage et la volonté de pardonner à mes bourreaux? Moi, qui ne suis pas persécuté, est-ce que dans mes relations avec ma famille, mes amis, mes collègues de travail, mes voisins, j'expérimente réellement le pardon? Et si je suis en conflit avec quelqu'un, suis-je enclin à garder rancune ou à pardonner sans restriction? Voici quelques questions qui, moi, personnellement, m'ont tout à fait interpellé. Quand je regarde ma vie et ma façon de vivre, je suis loin de la perfection à ce sujet-là. Et quand on m'agresse, j'ai plutôt tendance soit à me retirer et un peu à garder rancœur, plutôt que d'aller vers la personne et à pardonner. Et on a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à apprendre de ces chrétiens qui, dans l'épreuve, dans la souffrance, eux, ont le courage de faire front, de faire face et de pardonner d'une manière inconditionnelle, comme eux-mêmes ont été pardonnés. Alors vous allez me dire, mais c'est dans l'action que le Seigneur va nous donner la possibilité, la force de pardonner. Et c'est vrai, mais on peut quand même utiliser le témoignage de ces chrétiens dans nos vies actuellement, pour que nous aussi, nous puissions avoir un témoignage dans nos vies, et comme on a dit, dans notre entourage, de pardon. Ce qui ressort de ces questions, c'est que la capacité de pardonner vient de notre relation avec le Christ. Est-ce que nous avons une vraie relation avec le Christ? Parce que vous êtes rendu compte en regardant les vidéos que nous avons vues, les témoignages, que cette relation implique un sacrifice, un prix à payer. C'est vrai, le salut est gratuit, mais la vie chrétienne est un combat permanent. Et comme Étienne nous l'a dit, eh bien, il y en a qui payent un prix plus élevé que d'autres. C'est Dieu qui décide qui va payer le prix. Et quel prix? Mais même nous ici, dans les églises occidentales, nous avons aussi un prix à payer. Mais est-ce que nous sommes prêts à le payer? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix de prendre position, d'apporter l'évangile à des gens qui n'en ont pas envie, qui nous rejetteraient peut-être? Est-ce que nous avons la force de parler de Jésus à nos collègues de travail, à nos voisins, à nos familles? Ou est-ce que nous nous endormons doucement dans notre chrétienté tranquille? C'est une grâce du Seigneur que nos églises ne soient pas persécutées. Mais si je me rappelle bien, un philosophe qui se nommait Tertullien disait que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Alors est-ce que nous avons besoin d'être persécutés pour témoigner? C'est une bonne question. Et certaines fois, et souvent, nous prions pour les églises persécutées en disant à Dieu, délivre-les de la persécution. Et pourtant, la persécution continue. Et on se rend compte que certaines fois, la persécution amène beaucoup plus de gens à Jésus que nous, ici, dans nos églises, par notre témoignage. Dans la Bible, Paul nous parle du sacrifice d'Étienne. Et après ce sacrifice, les chrétiens ont été persécutés, en effet, mais ils sont partis dans tous les coins de la Judée, de la Samarie, etc. Ils sont allés évangéliser. Auparavant, ils restaient bien tranquillement à Jérusalem, entre eux, en train de parler à leurs proches, peut-être. Mais le Seigneur voulait qu'ils aillent beaucoup plus loin. Et la persécution a été un catalyseur à ce sujet-là. Et quand on regarde toute l'histoire de l'Église, on se rend compte que, de tout temps, l'Église a été plus ou moins persécutée. Mais que pendant qu'elle était persécutée, elle était vivante et réveillée. Et les moments où l'Église a été dans le plus grand assoupissement ont été les moments tranquilles, les moments de liberté. Cela nous fait réfléchir. Est-ce qu'on a besoin d'être persécuté pour avancer? Mais en tout cas, la capacité de pardonner vient bien de notre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. Alors nous devons apprendre à enrichir cette relation avec le Christ. Alors comment va votre relation avec Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes suffisamment proche de lui pour qu'il vous rende capable de pardonner? Sur notre lieu de travail, dans nos études, en famille, vivons-nous en apprenant à tolérer et à vivre avec notre rancune envers les autres, ou demandons-nous à Dieu de nous transformer pour apprendre à ne plus voir, ne plus nous rappeler et même à oublier les fautes des autres, selon l'exemple de Christ? Je crois que c'est une des choses les plus difficiles. Et le passage nous parle de surabondance également. Alors je m'explique, nous devons pardonner non pas en fonction du préjudice que nous avons subi, c'est un peu légal ça, ça serait normal. Alors j'ai subi un gros préjudice, mais Dieu ne nous demande pas de faire comme ça, mais plutôt en fonction de l'abondance du pardon que nous avons nous-mêmes reçu de Dieu. Et là, ça change la donne. Ça veut dire que nous devons pardonner d'une manière totale. Alors tout cela semble simple, en apparence. Mais est-ce que je suis prêt à retourner aux choses les plus blessantes que j'ai subies, aux blessures même les plus profondes, non pardonnées jusqu'à ce jour, jusque dans mon enfance même, en demandant à Dieu de m'aider à pardonner totalement, afin que je sois moi-même totalement délivré et renouvelé? Est-ce que j'ai ce désir d'aller aussi loin? Je pense que nous touchons ici un des standards les plus élevés de la foi chrétienne. Le fait de pardonner jusqu'à son pire ennemi est une folie pour le monde. Mais le témoignage de beaucoup de chrétiens persécutés dans le monde qui ont pardonné publiquement à leurs persécuteurs est la plus grande beauté que nous, en tant que chrétiens, nous puissions offrir à ce monde en déroute où la haine et la rancœur rongent les cœurs. Cette folie du pardon, c'est tout simplement l'amour, et seul l'amour peut changer les cœurs. Seul Dieu peut toucher les cœurs, mais il se trouve qu'il nous a choisis, à nous, du sein du monde perdu, pour montrer cet amour et ce pardon dont il nous a déjà gratifiés. Il nous a choisis. Nous, on n'avait rien demandé. Et on se retrouve sur la scène du monde avec beaucoup de persécutions, beaucoup de haine, beaucoup de rancœur. Et le Seigneur nous demande d'aller et de faire des nations des disciples. Ce n'est pas une situation très facile à vivre. Pourtant, si nous sommes en relation étroite avec le Christ, c'est ce que nous allons vouloir vivre. Parce que lui, c'est lui qui va nous mettre dans nos cœurs cette envie, ce désir de parler de lui, ce désir de montrer son amour au monde. J'aimerais terminer par un verset qui se trouve dans 1 Pierre 3, verset 9. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Alors c'est un verset qui ressemble un petit peu à tout ce que nous avons lu auparavant, en effet. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Mais la dernière partie du verset nous donne une espérance vivante afin d'hériter la bénédiction. Si vous pardonnez à votre prochain qui vous a fait du mal, Dieu va vous bénir. Et certainement, il va bénir votre témoignage. Et vous allez être rempli de paix et d'amour pour les autres. Mais si vous ne bénissez pas, si vous ne pardonnez pas, cette bénédiction va rester suspendue et vous n'allez pas avoir de paix dans votre vie. Alors, ce n'est pas facile de pardonner. Je le concède. Mais nous, nous avons été pardonnés. Alors, regardons nos cœurs, regardons nos vies, regardons ce que nous étions auparavant. Regardons le prix que Dieu a dû payer pour que nous soyons pardonnés. Et soyons conscients que nous ne pouvons pas faire autre chose que de pardonner nous-mêmes. Parce que nous avons tant reçu que nous ne pouvons que redonner. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, combien il est difficile de pardonner. Combien il est difficile d'aller contre notre nature, Seigneur, et de nous rapprocher de toi, de nous rapprocher de ta nature, Seigneur, en Jésus-Christ, pour que là, nous puissions être rendus capables de pardonner, capables de cet amour divin qui n'existe pas sur terre, Seigneur, qui n'existait pas dans nos cœurs, et que tu as implanté toi-même pour que nous soyons, Seigneur, des témoins véritables de ta grâce et de ton amour. Seigneur, nous n'avons, Seigneur, aucune gloire à retirer de cela, Seigneur. Nous sommes des ouvriers inutiles, Seigneur, et tu nous fais la grâce de nous utiliser. Tu fais cette grâce aussi d'utiliser toutes les églises dans le monde, même celles qui sont persécutées, peut-être même plus celles qui sont persécutées, pour montrer au monde que cet amour peut renverser toutes les barrières, et que cet amour, Seigneur, tu l'as déployé en Jésus-Christ, sur la croix, pour que chaque personne dans le monde puisse venir à la connaissance de ton pardon et de la vie éternelle. Seigneur, nous voulons ce matin te dire merci, parce que nous sommes au bénéfice de ce pardon, Seigneur. Et ce que nous désirons, c'est que le plus grand nombre puisse parvenir à la connaissance de ton pardon. Nous prions ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.